colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame Fouchard, vous avez la parole.
Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être dans ce si beau lieu. Je vais vous présenter une petite intervention sur un personnage qui s'appelle Marguerite, que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette communication. Donc j'ai rencontré Marguerite, je vais vous montrer son visage, hein, aux environs de photographies prises aux environs de 1900. J'ai rencontré Marguerite au cours de mon travail de thèse qui portait sur les retours des combattants dans leur foyer après la Grande Guerre. La rencontre s'est faite par le truchement de son journal de guerre d'une Française, paru donc publié en 1938, à partir des cahiers qu'elle a rédigés durant tout le conflit. Elle a été, cette Marguerite, l'une des nombreuses femmes qui m'ont accompagnée durant mes années de recherche, longues années de recherche, qui ont nourri ma réflexion et qui ont, par les traces discrètes, parfois qu'elles ont laissées, par les chuchotements qui bruissent encore si l'on prête l'oreille, donner tout son sens à l'histoire qui se dessinait pour un tel sujet sur le retour, une histoire qui, comme l'écrit Annette Becker, essaie de montrer comment les êtres humains aiment, souffrent, rient, pleurent, choisissent, subissent. Marguerite publie donc son journal en 1938, sur les conseils de M. de Lamotte, ancien soldat, qui souhaite, comme il l'indique dans la préface, qu'elle montre, je cite, « ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ce que tant d'autres femmes de France ont fait. » Marguerite reprend alors les cahiers d'écoliers qu'elle avait tenus du 1er août 1914 au 11 novembre 1918, cahiers qu'elle qualifie dès la première page de confident, d'ami muet à qui elle confiera dans le silence ses peines et ses angoisses. Confirmant l'analyse de Philippe Lejeune, pour lequel un journal est d'abord une pratique plutôt qu'une œuvre, pratique dont le modèle est celui d'une circulation entre conversations, correspondances et journal, et qui, ajoute Philippe Lejeune, lance le texte dans la réalité des rapports avec autrui, mettant en résonance le fort intérieur avec le fort extérieur, l'intime avec le social. Cette circulation, cette discussion avec elle-même, dans l'espace d'un journal presque humanisé, vous allez le voir, Marguerite en mesure l'importance et les enjeux. J'apprécie l'utilité de mon journal, écrit-elle, qui m'obligeant à me mettre fréquemment en face de ma conscience, me fait voir une femme qui, faisant de son mieux, ne fait que son devoir. J'aurais aimé pouvoir comparer ce journal de 1938 avec les cahiers d'origine rédigés pendant tout le conflit, afin d'y repérer les éventuelles modifications effectuées a posteriori. Nous avons cru, un instant, avec son arrière-petit-fils ici présent, avoir trouvé la piste de ces cahiers qui auraient été confiés au curé de la paroisse, mais déception, pas de traces de ces cahiers dans les archives diocésaines. Donc, tout en tenant compte de la réécriture, même partielle et probable, comme en témoigne le changement des prénoms, son mari, Gaston, devient Maurice dans le texte publié, son journal n'en demeure pas moins d'une grande richesse. Il fait tout d'abord écho à toutes ces autres voix féminines que j'ai pu entendre, tant dans les écritures de soi que dans la presse féminine et féministe de la guerre et de l'après-guerre. Ces voix qui fourmillent tout en faisant société, qui, comme l'écrit joliment Philippe Artière, font sourdre des histoires individuelles une histoire collective. Car la voix de Marguerite prend vraiment sens pour le récit historique quand elle est plongée dans la chorale commune. Quand mêlée aux autres, elle fait émerger une figure tout à la fois ordinaire et remarquable, exemplaire et singulière. De plus, la publication, 20 ans après l'armistice, de son journal témoigne de l'importance que les longs jours de guerre ont eu pour Marguerite, des jours qu'elle décrit comme les jours les plus terribles et les plus grands de son existence, réaffirmant ainsi, avec le recul qui bien souvent donne sens et poids aux événements, combien son expérience de guerre a marqué sa vie et révélé sa personnalité, comme un dévoilement de soi. Combien aussi de pratiques pendant le conflit, le journal se fait plus tard dans une certaine mesure œuvre et qu'il s'impose comme témoignage d'un passé encore présent, encore agissant. Marguerite est née en 1880, dans la région de Compiègne. Elle reçoit une éducation religieuse, apprend le piano et l'allemand et passe un diplôme d'infirmière. En 1903, elle épouse Gaston Benoît, dont vous avez la photo un peu plus tardive ici, directeur administratif de la sucrerie de Crépy-en-Lannoy et de 8 ans son aîné. En 1906, Gaston est nommé directeur de la sucrerie de Francières et Marguerite retrouve alors sa terre natale. Entre 1904 et 1911, Marguerite et Gaston ont 4 filles, Simone, Lily, Françoise et Paulette. À la déclaration de guerre en août 14, elles ont entre 10 et 2 ans. Marguerite en a, elle, 34. Gaston est mobilisé dès le début de la guerre comme lieutenant d'artillerie dans le 42e régiment d'artillerie de la Fère. Marguerite et ses filles sont alors en vacances à Cailleux. Elles rentrent précipitamment pour lui faire leurs adieux et Marguerite se rend au moins à 2 reprises dans l'Aisne où l'unité de Gaston se constitue avant le départ au front. Ces brèves retrouvailles sont extrêmement importantes car c'est à cette occasion que Marguerite promet à son mari de le remplacer à la tête de l'usine et des fermes, d'en prendre la direction durant son absence. La force de la promesse faite et l'engagement à le remplacer, songe j'y reviendrai, essentiel dans le parcours, le cheminement de Marguerite et dans ce qu'elle écrit d'elle, de son couple, de sa famille, de ses relations sociales, de ses peurs et de ses bonheurs, de ses découvertes et de ses certitudes, parfois ébranlées. Le 2 septembre, 14 bien sûr, aux environs de Laon, Gaston est fait prisonnier et est envoyé au camp du Kürstrin, en Poméranie, puis à Ingolstadt, en Bavière, jusqu'à la fin de la guerre. Après des jours d'angoisse sans nouvelles, Marguerite apprend le 7 octobre 14 que son mari est prisonnier, mais vivant. Il ne reviendra qu'après l'armistice. Pour Marguerite et Gaston, aucune permission ne viendra rompre le long éloignement. Ils seront séparés pendant plus de 4 ans. Marguerite est donc, durant tout le conflit, à la tête de la sucrerie, qui est constituée de l'usine et de 900 hectares de terres et de fermes, chef d'une entreprise qui emploie 69 personnes dans la commune, qui en compte 202 au recensement de 1911. Par 3 fois au cours du conflit, Marguerite doit quitter la région, à contre-cœur qui était Francière, la région se retrouvant dans la zone des combats. Je vous ai mis là quelques cartes pour que vous puissiez voir entre 14 et 18, donc ici l'offensive allemande en 14 sur le front ouest, et j'ai mis un petit rond bleu là pour montrer la localisation d'où se trouve Marguerite. Ça, c'est pour l'offensive allemande du front ouest, donc on voit que la région est évidemment sous les troupes allemandes. Puis la stabilisation du front, donc on est juste là, au-delà de la ligne, sur l'arrière de la ligne de front en 14, j'y reviendrai pour différents éléments, et puis offensive allemande du printemps 18, pour enfin voir la contre-offensive des alliés. Donc on voit qu'on est toujours ou bien dans la zone de combat ou bien à la limite de la zone du front. Mais donc à chaque fois que Marguerite quitte Francière, elle y revient toujours le plus vite possible pour remettre l'usine en route. Et il y a parfois des dégâts absolument considérables. Quand elle revient, par exemple, en octobre 14, lors de la stabilisation du front ouest, l'usine a été occupée d'abord par les troupes allemandes, puis par les troupes françaises, et une boucherie militaire a été installée dans l'un des hangars de l'usine. Il y a des flots de sang qui s'écoulent. En juin 18, après la contre-offensive des Alliés, la cheminée de l'usine que vous voyez ici, je vais vous montrer un gros plan, on aperçoit juste là, ce que je vais vous montrer en gros plan après. La cheminée de l'usine donc, est transpercée par un obus et elle emporte donc encore aujourd'hui les stigmates, hein, puisqu'on voit qu'on a inscrit juin 18 hein, pour marquer cette cheminée qui a donc été transpercée par un obus. Donc voilà pour l'univers hein, de Marguerite. Donc Marguerite et Gaston donnent l'image d'un couple uni et amoureux, pour qui la séparation est une grande douleur, une telle tristesse que la pudeur est mise de côté et que la manifestation de l'intime sort du cadre du privé. Nous nous sommes embrassés devant les soldats, simplement, fortement, écrit Marguerite, pour décrire l'heure de le revoir le 1er août 1914. Ils sont de ces couples dont Clémentine Vidal-Naquet a étudié la correspondance, de ceux qui, durant tout le conflit, s'écrivent pour ne pas se perdre, qui dans l'adversité réinventent les liens qui les unissent, qui jonglent entre passé, présent et avenir, afin qu'en dépit de l'absence et de la séparation, ils traversent et partagent cette période de guerre de leur vie conjugale, en attendant le retour. Leur correspondance a disparu, mais Marguerite y fait très souvent référence dans son journal. D'emblée, elle mesure l'importance que l'échange épistolaire va avoir pour son couple et la puissance de l'objet lettre, de sa matérialité. Lorsqu'elle doit quitter Francières, fin août 14, elle emporte avec elle les lettres de Gaston. Chaque soir, après avoir bordé mes chéris, écrit-elle, je relis les lettres brèves et rares que j'ai reçues de lui depuis la mobilisation. J'en avais fait un paquet bien léger mais si précieux avant notre départ. Son journal est rythmé par les nouvelles qu'elle reçoit de son mari. Mais Marguerite n'est pas dupe de l'ambiguïté de ce lien de papier qui rassure et angoisse en même temps. Dans ces conditions d'éloignement, écrit-elle le 16 mars 18, dans cette impossibilité de dire ce que l'on veut dire, les correspondances, pourtant si avidement attendues, deviennent une source nouvelle d'anxiété. En commentant à la fois les mots de Gaston et ceux qu'elle lui adresse, Marguerite met à jour les filtres, les processus d'autocensure et les mensonges aussi de leur échange épistolaire, autorisant à complexifier encore l'approche des rapports de couple, des rôles de chacun dans le couple en guerre, de ce qui se joue dans ce bouleversement familial et conjugal. Si dans les correspondances, comme l'a montré Clémentine Vidal-Naquet, et comme ce qui ressort de ce que Marguerite écrit de la correspondance qu'elle entretient avec Gaston, donc si dans les correspondances, les couples perpétuent très souvent les anciens rapports sociaux de genre, les hommes donnant recommandations et ordres, tandis que les femmes demandent conseils et avis, le journal de Marguerite met en évidence l'écart entre ce que l'on écrit à l'autre, la permanence illusoire que l'on entretient et ce qui est fait et vécu. En mai 1915, Marguerite écrit ainsi. Le soir, j'ai écrit une longue lettre à Gaston. C'est du mensonge continuel. En la terminant, j'ai quelques scrupules, non du péché, mais je me demande si le cher destinataire ne trouvera pas ma prose trop sereine pour être véridique. Et la réponse de son mari à sa lettre provoque cette réaction de Marguerite. Voici une lettre de Gaston qui me trouve naïve et confiante à souhait. Mes mensonges ont bien réussi. J'y ai presque regret, un regret d'amour propre. Car si je veux être confiante, et parfois le paraître quand je le suis moins, je ne suis pas naïve. Alors apparaît la marge de manœuvre de Marguerite, l'espace acquis d'une autonomie dans la vie nouvelle, dans la réorganisation familiale que la guerre et la séparation lui imposent, mais dont elle s'empare, et qui se manifeste dans cette résistance invisible aux ordres épistolaires de son mari. Ainsi, en janvier 18, alors qu'il lui écrit de quitter la région, elle note « Il m'écrit de partir, je comprends mon mari, mais ma résolution est prise et je la crois conforme au devoir demeurer ici. » Le sentiment du devoir est central pour Marguerite, un devoir multiforme, patriotique, conjugal, maternel, familial, social, qui ne se discute pas et dont elle souhaite être digne. Car Marguerite est certes une femme de mobilisée, mais plus encore, elle est elle-même une mobilisée. Elle écrit ainsi le 4 novembre 14. Ce n'est pas cette existence que j'avais rêvée pendant la guerre de revanche. Mes diplômes d'infirmière ne me serviront à rien. Sans doute, ils ne m'auraient pas procuré la gloire, mais ils m'auraient mis en contact plus direct avec l'armée. J'aurais été militaire aussi. Allons, réprimons ces regrets ou perce quelques vanités peut-être. Le devoir est ailleurs, il est plus terne, elle met terne entre guillemets, en apparence, c'est le devoir. Il serait d'ailleurs injuste de dire qu'il est sans joie et sans consolation. Ce devoir, elle se le répète comme un mantra tout au long du journal. Il la fait tenir, il donne sens et justification à ses choix assumés et l'amène à découvrir d'une part d'elle-même par la position qu'elle occupe alors. Face aux difficultés de la vie des zones proches du front, à l'entreprise qu'il faut faire tourner en trouvant du personnel pour remplacer les hommes mobilisés, en obtenant les fournitures nécessaires au fonctionnement de l'usine dans un contexte de réquisition, face à la solitude, aux angoisses pour l'absent et pour ses filles, au surmenage, aux nuits peuplées d'affreux rêves, des nuits, comme elle l'écrit pudiquement, où les appréhensions qui s'exagèrent tendent à devenir troublantes. Pour faire face à tout ça, Marguerite trouve, comme elle le note en novembre 14, dans le travail, dans le devoir accompli au lieu et place de l'absent, une certaine paix et quelques consolations de son absence. Et lorsqu'elle est contrainte à un nouvel exode en 1918, elle souffre de ne plus se sentir active et note « J'ai le mal du pays où je voudrais retourner au travail et à l'honneur. Et puis au moins à Francière, la fatigue me faisait dormir. Maintenant les nuits sont longues et je pense trop. » Marguerite prend donc la direction de l'entreprise, société anonyme créée en 1884, dès la mobilisation de Gaston, sans pour autant avoir le moindre mandat officiel du conseil d'administration qui assume légalement les pouvoirs de Gaston et qui envoie à plusieurs reprises un contrôleur sur place. Elle n'assiste à son premier CA qu'en janvier 1916 et à sa première assemblée générale qu'en décembre 17. Et en dépit des félicitations qu'elle reçoit du conseil pour sa gestion de l'entreprise, les comptes rendus des CA passent sous silence la réalité de son implication dans la direction de la société. Cette prise du pouvoir de fait, légitimée pour Marguerite par la promesse faite à Gaston lors de leur séparation du 1er août 14, ne se fait pas sans difficulté. Marguerite relate ainsi en octobre 14 la visite d'un membre de la famille. Entrevue pénible avec un parent de la famille. Il demande d'abord des nouvelles de Gaston et j'allais être touchée par ce sentiment délicat. Quelle erreur! Il aborde la question des difficultés de la situation. Il les juge insurmontables pour une femme. Mais il a une idée, ah oui. Je n'ai qu'à écrire au conseil d'administration qu'après réflexion, j'ai peur de ne pouvoir conduire à bien l'affaire et que je propose comme directeur le propre neveu du visiteur. Je suis demeurée d'abord sans parole devant tout ce qui m'était révélé de sentiments, mettons, médiocres. Puis me ressaisissant, j'ai répondu que je n'ignorais pas mon insuffisance actuelle, mais que je serais bien secondée, que je m'y mettrais sans doute, et qu'en tout cas, une chose commandait ma conduite, la promesse faite de remplacer mon mari. C'est forte de cette promesse érigée en devoir et qui l'engage absolument que Marguerite affronte les difficultés et tient tête durant tout le conflit à ceux qui mettent en cause, parce qu'elle est femme, sa capacité à diriger l'entreprise. Comme cet homme qui, en novembre 14, lors d'une réunion organisée à Compiègne par le ministère de la Guerre pour la mise en marche des usines de la région, qui lui dit que les femmes ne réussissent pas en affaires, ce n'est pas leur place, et l'engage en ami à partir tout de suite. Ou bien encore ce capitaine qui, en avril 18, s'étonne d'avoir à négocier avec une femme directeur. Marguerite exprime dans son journal son agacement face à ces remarques récurrentes qui blessent son amour-propre. Et cela l'amène à dépasser son cas individuel pour mettre en cause les représentations genrées que ces remarques traduisent. En janvier 1915, elle est au retour de Compiègne arrêtée par un commissaire qui lui fait part de son étonnement de voir une femme s'occuper d'affaires. Et elle écrit alors: cette remarque, tirée à la énième édition, finit par m'énerver et je réplique assez vivement. Je ne sais si j'aurais converti mon commissaire au féminisme, en tout cas, il faudra bien que ces messieurs, après la guerre, conviennent que les femmes peuvent et savent se rendre utiles. Propos qu'elle poursuit et renforce en juin 17, quand elle commente la lassitude de l'arrière et ce qui lui apparaît comme du défaitisme. Les femmes tiennent mieux. Va-t-il falloir se convertir au féminisme ? En juin 18, alors qu'elle enregistre des défections au sein du personnel masculin de l'usine, elle note « Hum, le sexe fort ne l'est pas autant qu'on le dit. » Et en septembre 18, alors qu'elle se réjouit du fait que la moisson se termine au mieux, étant donné les circonstances, et qu'elle est venue à bout des démolitions, comme on le voit là, et des dégâts causés dans l'usine par les bombardements et les mouvements du front dans la région, elle note « Nous sommes maintenant une petite colonie de 16 personnes et dans cette petite république, j'occupe tous les ministères, ravitaillement, finances, travail, agriculture, etc. Ah, chers messieurs, entre nous, après la guerre, ne nous chantez plus que vous avez le monopole de la force morale et du courage. » Et pourtant, Marguerite souscrit à une vision traditionnelle, naturaliste, essentialiste des femmes et des hommes. Elle n'échappe pas, loin s'en faut, à l'adhésion aux stéréotypes sexués, et elle participe sciemment à leur construction et à leur inscription mentale et sociale. Dès le début du journal, on voit à quel point Marguerite est modelée par ces normes. D'emblée, elle se définit comme femme et mère, avec les qualités intrinsèques et naturelles qu'elle attache à cet état. Face à l'imminence de la guerre, elle avoue avoir voulu, je cite, « douter quand même, c'est-à-dire espérer, et cela parce qu'elle est femme et mère ». La fonction procréatrice féminine déterminant alors fondamentalement et indiscutablement, selon elle, son rapport au phénomène guerrier. Dès la mobilisation de Gaston, elle loue le calme et le courage masculin de son mari, du chef, tandis qu'elle évoque ses fragilités, ses insuffisances féminines, sa timidité et sa nervosité, ses peurs féminines, peur de l'obscurité, du cambrioleur, de la souris, contre lesquelles il va lui falloir lutter pour faire face à une situation qu'elle veut transitoire. Car si Marguerite assume avec détermination la direction de l'entreprise, elle envisage cette expérience comme un intérim, en attendant le retour de Gaston, qui a fixé en août 14 ce qu'il a nommé les attributions du conseil de régence, expression qui démontre que la situation veut être vécue comme une parenthèse et qu'à la mobilisation succédera la démobilisation, entendue comme une normalisation, c'est-à-dire un retour à la vie d'avant la guerre et la séparation, où chacun retrouvera la place qui est la sienne. Malgré soi, on se demande, note Marguerite en février 17, l'an prochain, au moins, est-ce que nous serons revenus à la vie normale, à la bonne vie d'autrefois? Et là, évidemment, l'intervention de Nadine Lemeur me parlait tout à l'heure quand le quotidien était survalorisé dans les textes qu'elle évoquait. Durant tout le conflit, Marguerite rappelle qu'elle ne souhaite qu'une chose, céder la place. Et elle se languit de ce qui lui apparaît comme la douceur de vivre d'avant tout ceci. En octobre 1915, un des employés s'étonne de l'avoir si peu flatté des félicitations que lui adresse le conseil d'administration. Ben, « Que voulez-vous donc, madame ?» dit-il en levant les bras au ciel. « Ce que je voudrais, lui répond-elle, c'est mon mari et tous les miens, et redevenir mère et femme d'intérieur. Ne suis-je pas femme et fille et sœur aussi ?» Mais l'expérience que vit Marguerite la change. Elle en a conscience. Et elle confie à son journal cette observation d'elle-même, des changements qui s'opèrent en elle. Son journal reçoit et autorise l'introspection. Au début de la guerre, elle s'inquiète de son manque de calme, je cite bien sûr, de résignation, voire de courage, toute qualité qu'il me faut acquérir. Elle dit ne pas avoir d'illusions, la vie lui sera rude. Je ne connais rien aux affaires, je suis peureuse, je n'ai jamais eu à déployer autant d'énergie, la vie m'ayant été douce. Il s'agit donc de dépasser ce que j'ai été, ce que j'ai donné jusqu'ici, se lance-t-elle comme un défi en octobre 14. En dépit des difficultés multiformes sur sa route, des moments de désarroi, et de découragement parfois. Marguerite assume très rapidement les responsabilités qui lui incombent désormais, et elle endosse avec fierté et une forme de plaisir, même si c'est difficile à admettre pour elle, un rôle qu'elle découvre. En fin de compte, je trouve que je m'adapte assez bien à ma nouvelle vie, écrit-elle en novembre 14. Il m'arrive, quand j'ai couché mes chéris, de me mettre à un autre balcon. Dans la nuit silencieuse, les détonations retentissent plus fortement vers Roy-Lassigny-Tracy, si près de chez nous. Parfois, la lune éclaire le long ruban de la route du Nord. Ramenant alors les regards sur la masse de nos bâtiments, je pense au capitaine qui, devant la passerelle de son navire, scrute l'horizon et dirige le bâtiment. Marguerite, dans la peau du capitaine, est fière de voir l'usine fonctionner grâce à son travail et de la montrer à ses filles. « L'usine marche bien, je l'ai montré cet après-midi à mes filles avec quelque fierté », écrit-elle en novembre 14. Elle est fière de la réputation qui lui a été faite d'une femme qui a toute maîtrise d'elle-même, de l'autorité qu'elle acquiert sur le personnel et face aux autorités. J'ai été baptisée, paraît-il, le commandant en jupon. Les jupons sont évidemment une manière de galon imprévu, mais il faut croire que les galons ne sont pas indispensables à l'autorité, car on ne ricane plus sur mon passage et on évite de se mettre en travers de mes droits, souligne-t-elle en mai 18. Elle est fière de l'image d'elle-même que sa place nouvelle et assumée renvoie à ses filles, comme lorsqu'elle relate en septembre 17 la lutte qu'elle a dû mener pour obtenir du charbon afin que l'usine puisse fonctionner. Ayant supporté le premier choc, je contre-attaque. Je deviens impérieuse à mon tour. Une victoire emportée de haute lutte et avec un toupet qui étonne ma fille. Un des éléments essentiels du journal de Marguerite réside dans cette découverte de soi que les circonstances ont permise et que la pratique de l'écriture de soi révèle et nourrit tout à la fois par l'observation d'elle-même que le journal autorise et par la mise en mots, en langage, qui la réalise, au sens où elle fait passer à l'état de réalité concrète cette découverte en la formalisant. Marguerite raconte ainsi la visite qu'elle a reçue en février 17 de M. et Mme V, venue la remercier pour des démarches qui ont abouti à l'installation de l'aviation au bout du plateau, préservant de belles cultures. « Vous étiez si timide, naguère, m'a dit Mme V. Votre mari ne vous reconnaîtra pas. » Cette remarque me rend songeuse. Oui, j'ai acquis en quelque sorte une « personnalité », elle met le mot entre guillemets. Mais est-ce que ça plaira à Gaston ? Allons, quand il sera là, on tâchera de perdre cette personnalité. Ce sera comme pour certaines constructions de guerre, plus facile à démolir qu'à construire. Écrit-elle comme pour s'encourager, car on sent bien que ce ne sera pas si facile. Et pour repousser à plus loin les inquiétudes d'un retour, pourtant tant attendu, d'une normalisation désirée, mais que les stigmates de guerre et l'écart des expériences risquent bien de complexifier, tant ils ouvrent sur d'autres vérités, d'autres discours et partant d'autres potentialités. Dès le début du conflit, Marguerite interroge l'empreinte que la guerre inscrit dans sa vie. « Je me demande, écrit-elle, si la guerre ne laissera pas aussi dans ma vie d'irréparables stigmates. » Et le regard qu'elle pose sur les corps qui changent témoigne combien ils sont au cœur de l'expérience de guerre, pour les hommes comme pour les femmes, et combien ils portent les enjeux des expériences qui sont en train de se vivre. « Mes yeux tombent sur mon image dans une glace, écrit-elle en novembre 14. Je me trouve changée, quelques cheveux blancs, un regard qui paraît douloureux. Aurais-je donc vieilli tant que cela en quelques mois? Et me reconnaîtra-t-il quand il viendra ?» En janvier 1916, elle reçoit une photographie de Gaston. « Mauvaise, mauvaise journée, car j'ai reçu une photo de Gaston et je l'ai trouvé si changé, si amaigri, le regard plus dur encore, un regard que je ne reconnais plus. » Dans les corps et les regards se lisent les transformations, les cicatrices de l'avenir, et se joue la connaissance de soi, de l'autre, et le lien à l'autre dans la traversée de la guerre. L'espoir du retour se charge alors, avec la guerre qui dure, d'inquiétudes et de questions qui s'appuient sur la pensée du parcours accompli durant les épreuves, sur la conscience d'un cheminement personnel entraînant une nouvelle perception de soi que Marguerite traduit par le terme de personnalité qu'elle emploie et sur les traces profondes que les expériences de guerre inscrivent dans les vies. En août 17, Marguerite écrit « Mauvaise journée moralement. Visite d'une amie, la conversation a roulé sur la mentalité de nos maris quand ils reviendront de la guerre. Ces messieurs, à l'en croire, seront aigris, grognons. Et puis ils seront blessés dans leur orgueil de ce que nous avons su tenir leur place et sauver leurs intérêts. » Et puis encore, nous aurons perdu notre féminité. Et je me prends à me regarder dans la glace. Évidemment, mes traits endurcis. Allons, mauvais après-midi. Peut-être y aura-t-il des hommes faits comme le dit mon ami, mais pas tous, je pense. Ajoute-t-elle afin de retrouver un peu d'optimisme et pour chasser les appréhensions qui ternissent la pensée du retour et de la reprise de la vie commune et qui fondamentalement déprécient les expériences féminines de guerre en rendant l'avenir ensemble si incertain du fait du vacillement des assignations traditionnelles de genre auxquelles le conflit et la longue séparation ont donné lieu, des implications identitaires que la reconfiguration familiale de guerre a provoquées, même si celle-ci est souhaitée provisoire. Et l'inquiétude est réactivée lors des retrouvailles de couple de son entourage, ainsi en février 18. Une de mes amies a revu son mari interné en Suisse, très changé même moralement, très aigri par la grande épreuve. Comment faire pour s'empêcher de se demander s'il allait en être ainsi pour moi ? Remarque qui montre combien le retour réel, avant d'être effectif, est pensé et anticipé durant le conflit, s'inscrivant dans une trajectoire de reformulation de soi, d'interrogation critique de la relation aux autres, du fait de la nécessaire adaptation à laquelle la brisure dans le quotidien des liens conjugaux et familiaux a obligé. Interrogation accentuée par la conscience de l'empreinte profonde que les expériences de guerre gravent dans les foyers, dans cet espace où se fabriquent aussi les conditions du rapport aux autres et de la perception de soi. Que devient alors cette expérience de guerre pour Marguerite ? Est-elle seulement circonstancielle ? Marguerite se démobilise-t-elle en réintégrant sans changement les rôles, la place qu'elle occupait avant-guerre et dont elle disait se languir parce qu'ils étaient ses rôles et sa place naturelle de femme ? Cette personnalité qu'elle s'est découverte dans la guerre s'efface-t-elle quand Gaston rentre ? Le fait que Gaston reprenne la direction de la société et soit rétabli dans ses prérogatives lors de l'Assemblée générale de février 19, que de facto, Marguerite cède la place. Est-il la preuve que la parenthèse de guerre est réellement et définitivement refermée et qu'au devoir de guerre succède, au nom des morts et des souffrances, le devoir de paix pour Marguerite, c'est-à-dire l'obligation morale, familiale et sociale d'un retour à l'ordre d'avant-guerre, comme peut le laisser supposer ce qu'elle écrit pour clore son journal à l'annonce de l'armistice en s'adressant aux morts. « Nous devons tourner la page » et dans la paix par vous conquise, Nous devons nous efforcer à écrire une autre page digne de la vôtre. La réponse à ces questions pourrait paraître simple. Gaston revient, retrouve ses fonctions, la régence prend fin, Marguerite réintègre son espace naturel, celui du foyer, la boucle est bouclée, et le retour tant désiré gomme la marque des expériences et du temps de guerre. Il me semble pourtant qu'on ne peut être si catégorique. Marguerite met fin le 11 novembre 18 à son journal, nous privant dès lors d'un accès même imparfait à ses retrouvailles avec Gaston, à son intimité d'après-guerre, à une voix intérieure qui questionne sa relation au monde qui l'entoure et les évolutions personnelles et identitaires qu'elle a les sentiments de vivre, qu'elle se voit vivre. Et si nous ne pouvons que regretter l'absence d'écrit de soi après le conflit, certains éléments de la suite de la vie de Marguerite sont instructifs et témoignent du poids de son expérience de guerre dans sa constitution subjective. Marguerite, nous l'avons dit, cède la place au retour de Gaston. Elle consacre alors son temps à sa vie familiale et à ses activités sociales et religieuses. Catéchisme, activités destinées aux enfants du personnel, comme les représentations théâtrales qu'elle organise pendant les vacances, visites aux familles ouvrières, autant d'activités considérées traditionnellement comme féminines, dans l'esprit d'un paternalisme social, et qui s'inscrivent dans son éducation religieuse et sa formation d'infirmière. Tout est donc rentré dans l'ordre. Mais son journal a mis en évidence combien, à hauteur d'individus et de familles, normes et subversions de ces mêmes normes sont imbriquées. Combien, en dépit des discours normatifs dominants, l'expression de l'adhésion à la norme ne signifie pas forcément qu'on s'y conforme totalement. En d'autres termes, le fait que ces normes continuent à être reconnues comme légitimes, qu'elles soient même réaffirmées, ne signifie pas que les comportements, les vies soient en cohérence avec elles, ni que cela n'agisse pas sur l'évidence de leur pertinence. En ce sens, la décision de Marguerite de publier son journal en 1938, sans évoquer le contexte des tensions européennes qui a probablement joué un rôle, et de le faire préfacer par un ancien soldat n'est pas anodine. Cela témoigne de l'importance que Marguerite accorde à son témoignage et à son expérience de guerre, du fait qu'elle veut laisser une trace d'une expérience de toute évidence majeure, une expérience à laquelle Gaston et un entourage plus ou moins proche ont donc indirectement accès, qu'elle veut donc publique. Et c'est une supposition, cette publication traduit peut-être également une forme de nostalgie pour la femme que le journal donne à voir, malgré les immenses difficultés d'une période si noire et en dépit du bonheur de la paix retrouvée, une nostalgie pour la personnalité qui s'est dévoilée durant les épreuves. Je pense que c'est aussi de cette manière que l'on peut lire et comprendre le fait qu'en 1951, à la mort de son gendre qui avait succédé à Gaston, décédé en 1947, à la tête de l'usine, Marguerite, à l'âge de 71 ans, accepte la proposition du conseil d'administration de reprendre la direction de la sucrerie, qu'elle dirigera jusqu'à la fermeture en 1969, accompagnée d'une de ses filles, Lily, et plus tard d'une de ses petites filles, Sylvie. Le fait que le CA fasse cette proposition à Marguerite ne peut pas ne pas être relié à la direction qu'elle a exercée durant la Grande Guerre, à l'efficacité et à la maîtrise dont elle a fait preuve durant cette période particulièrement difficile, à la reconnaissance de la personne qu'elle est devenue durant les épreuves et qui, de toute évidence, n'a pas disparu. Et son accord à elle s'appuie probablement aussi sur le souvenir de ce passé fondateur qui la légitime. De plus, Marguerite s'engage en politique. Après avoir été conseillère aux affaires d'hygiène et sociales et présidente des anciens combattants, elle est élue maire de Francières aux élections de 1953 et le restera jusqu'à sa défaite au municipal de 1965. La démobilisation de Marguerite après l'armistice de 1918 et ce qui apparaît bien comme une normalisation familiale et sociale dans l'entre-deux-guerres me semble donc devoir être observée à l'aune de l'ensemble du parcours de Marguerite, d'un cheminement qui complexifie une approche qui envisagerait de façon trop raide les catégories du continu et du discontinu, les permanences et les ruptures. Car si la guerre est une césure, par les expériences qu'elle donne à vivre et par les conséquences durables qu'elle inscrit dans les vies, de lourdes permanences, associées au puissant désir de retrouver la vie en paix, rendent plus que difficile le changement radical, le desserrement volontaire ou non de l'emprise d'un ordre social mis à mal par les circonstances de guerre. Mais l'histoire de Marguerite témoigne, en dépit de la lourdeur du monde, de la lente recomposition à l'œuvre dans les familles, des déplacements identitaires conséquents auxquels la guerre a donné lieu, ouvrant la voie à de nouveaux possibles, par le franchissement de frontières supposées naturelles, rappelant que la famille est une donnée mouvante, sensible au contexte et au poids des événements qui agissent sur chacun et sur les liens entre ses membres, qu'elle est travaillée et modelée par un ordre et des représentations qui se redessinent sans cesse. Je vous remercie. Thank you.